Dans le cadre du Festival des Nuits de la Courtine, le 5 juillet 2008, Elisabeth Blanc, psychanalyste à Nice, a organisé la troisième rencontre art et psychanalyse à Saint-Paul-de-Vence. Un public nombreux et divers y a participé. Des artistes et des psychanalystes, plus particulièrement Frédéric Altman, écrivain et photographe, fondateur et directeur du Centre international d'art contemporain de Carros, Nivez, peintre et sculpteur à Nice, Zita Landi, peintre à Saint-Paul, France Delville, peintre et psychanalyste à Nice, Marc Morali, pianiste de jazz, psychiatre et psychanalyste à Strasbourg, Jean Charmoille, ténor lyrique amateur, psychologue, psychiatre et psychanalyste à Paris, et bien sûr, Elisabeth Blanc. Dans le film que vous allez pouvoir suivre, Jean Charmoille témoigne du mode singulier de cette rencontre qui a été pour lui celle du son et du sens, pour autant qu'elle s'est donnée un jour en écoutant la voix humaine en train de chanter. Il en a résulté une pratique du chant lyrique et le renouvellement de son expérience de psychanalyste.
Puisque précisément, ce n'est pas du domaine de la pensée. Naturellement, c'est-à-dire le fait que nous soyons des êtres parlants, qu'est-ce que ça implique dans notre rapport au temps et à l'espace? Puisque c'est comme ça qu'on peut introduire la question de l'image, la question de la peinture, la question de la sculpture, la question de la musique. Qu'est-ce que ça implique, le fait que nous soyons des êtres parlants? C'est-à-dire qu'il y ait cette énigme que nous avons habitée, qui s'appelle le langage. Qu'est-ce que ça peut produire chez un être qui devient de ce fait-là parlant? Quand on parle de l'être en philosophie, c'est comme si on faisait une censure sur le parlant, et du coup, on est dans la dimension de l'être. Et c'est justement quelque chose qui n'est pas de l'être dont on veut introduire les choses. Vous verrez un petit peu ce que ça, dans la discussion où ça conduit. Donc, qu'est-ce qu'il en résulte du fait que nous soyons des êtres parlants, c'est-à-dire qu'il y ait cette condition sine qua non d'accès à la vie, à l'amour, à la jouissance, à l'image. Et quel type d'image ça implique? Ça. Pourquoi c'est important? Parce que, effectivement, c'est quelque chose qui est, on pourrait dire, ce que je voudrais essayer de dire en introduction, simplement, c'est quelque chose qui est censuré naturellement par les images, quelles qu'elles soient. Et quoi qu'on dise sur les images, c'est pas de ça dont il s'agit. Dans la référence psychanalytique, on appelle ça la dimension de l'objet, etc. Alors, je parle de quel lieu? Parce que c'est ça pour parler. De l'expérience psychanalytique, mais c'est un peu facile de dire ça. Je parle d'une expérience artistique qui est la mienne, qui m'est arrivée un peu comme ça il y a quelques années, c'est-à-dire autour de 64-65 ans, et ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, on a déjà parlé ici un peu, qui est le fait d'avoir entendu quelque chose dans le cri de Don Juan. On a entendu un silence. Et ça pose la question, qu'est-ce que c'est que le silence? Pour autant que si Léo, en latin, Être silencieux, je suis silencieux, ça n'est pas tachéo, ça n'est pas secret. Autrement dit, il y a quelque chose de l'ordre du son, quelque chose d'insaisissable dans le silence. Et c'est comme ça que je voudrais introduire les choses, et c'est comme ça que le séminaire de cette année à Paris que j'ai soutenu sur l'image de la vie et vie de l'image est apparu. Alors on a fait toute une trajectoire. Bien sûr, je ne vais pas la redire, on en a parlé quand je suis venu en décembre, la dimension de l'incarnation dans le christianisme, la question de la querelle des icônes à Byzance au 8e, 9e siècle, on pourrait reprendre ça, on pourrait parler de la Renaissance, aux perspectives, etc. Et aujourd'hui, ce que je voudrais un petit peu centrer, c'est ça. De quel espace pouvons-nous jouir, avec tout ce que la langue en français met à notre disposition à partir de ce jouir, suivant que c'est J'OUIS ou J-O-U-I-S, c'est pas la même chose. Et pourtant, il peut arriver qu'à un moment, ces dimensions signifiantes puissent se rencontrer, entre ce qu'on pourrait appeler un certain commandement surmoïque, de l'ordre du jouir impératif, le fait de jouir, j'entends. Donc c'est autour de cette dimension-là, pour autant qu'effectivement, ce qui est au cœur de l'image, c'est effectivement un silence, c'est l'image silencieuse qui parle, comment ça parle. Alors, je vais peut-être dire encore une chose, puis après je vais laisser les choses. Marc Morali, je pense, vous dira quelque chose. Un certain nombre d'entre vous pourront le faire pour un peu lancer la discussion. Pour dire les choses simplement, nous avons à notre disposition, je dirais, à partir de la pensée, et ça depuis, ça a été notamment bien défini par Descartes, c'était chez les Grecs, c'était défini, un espace-temps. Un espace étendu, la pensée. Et dans cet espace étendu, par la pensée, on peut définir des limites. Ça a été décrit il y a longtemps, par Thès, etc. par Thès, et qu'on peut ajouter progressivement, dans une continuité, un certain nombre de territoires. Et on peut retrouver ça sur une peinture, sur une photo, dans une sculpture. Ce qu'introduit l'expérience artistique, pour en parler à partir de la mienne, celle de chanteur lyrique, de ténor lyrique, que j'ai découvert, je ne savais pas du tout que j'avais une voix de ténor, c'est quelque chose qui est apparu à plus de 65 ans en travaillant avec un chanteur d'opéra. Donc ça c'est quelque chose qui pour moi est une énigme. Comment se fait-il que c'est apparu? Bon, ça c'est une chose. Et je voudrais dire qu'il y a pour moi une très grande proximité entre ce qui sort du corps. Est-ce que c'est la voix? Peut-être, mais pas au sens habituel. Ce que l'on produit comme son est ce qui est produit à un certain moment dans l'expérience du transfert par l'analyse. Donc vous voyez qu'on touche à quelque chose d'insaisissable. Autrement dit, il peut arriver, maintenant que je vous parle, par exemple, dans quel espace se situe notre rencontre. C'est ça la question dont je parle. Quand vous regardez une sculpture, quand vous regardez une peinture, dans quel espace peut se situer la rencontre entre celui qui regarde, l'auditeur, et celui qui, pour cet auditeur, à ce moment-là, devient créateur. Puisque finalement, c'est l'auditeur qui peut définir ce mécanisme du monde d'esprit, c'est l'auditeur qui peut définir à un moment qu'il y a du créateur. Sauf si on reste à une vision, effectivement, d'un concept moïque, une vision de la pensée de quelque chose qui définit effectivement un espace. Alors l'espace, on va prendre l'espace étendu, il y a quelqu'un qui est là, il y a un objet qui est à une certaine distance, et on regarde, on peut même rajouter la Renaissance, la perspective, on est toujours dans un espace théoriquement à trois dimensions, en fait c'est du deux, et la grande question, je crois, c'est comment est-ce qu'on pourrait être hors deux, écrivez-le comme vous voulez, c'est-à-dire ce qui est de par le langage, cette dimension du trois. Ce que Lacan va marteler dans ce séminaire de 72-73, encore, les noms du père, et après les récits, c'est-à-dire le fait que ce qui compte, c'est que les trois dimensions réelles, symboliques, imaginaires, dans le titre de la conférence, amour, image, jouissance, ça n'est pas ce qu'est la jouissance, ça n'est pas ce qu'est l'amour, ça n'est pas ce qu'est l'image, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, chez un être parlant, qui va être torturé, tortillé, pour être écrit quelque chose, ce que Lacan ne va cesser de faire en scribouillant comme il dit au tableau, ce qui compte, ce n'est pas les ronds qu'il fait, c'est qu'il essaie d'écrire quelque chose, à mon avis, de ce qu'il essaie de dire. Il croyait qu'il y a quelque chose entre le son qu'il produit, au-delà de tout ce qu'il dit, au-delà du sens. Il y a quelque chose qui s'articule, il ne le dit pas comme ça, mais enfin c'est comme ça que je l'entends. Il y a quelque chose qui s'articule entre son dire à lui, qui est non pas effectivement à prendre au niveau du dit, c'est pour ça qu'il fait des écrits, ce n'est pas quelque chose qui se comprend. Il va dire qu'il prend le dire de Freud et non pas le dit de Freud. Il y a des choses très importantes entre le dit et le dire. Le dit, c'est la pensée, c'est la compréhension. Le dire, c'est tout. Ce que j'essaie un petit peu de vous transmettre, ça ne va pas de soi du tout, c'est le fait que il y a en nous, je résume aussi, les choses, même si on ne comprend pas comment ça marche, parce qu'on ne comprend pas comment ça marche l'affaire, du fait du langage, du fait que nous habitions le langage, ça va nous en conduire à beaucoup de difficultés, il y a en nous quelque chose, un questionnement, une question, une énigme, et que c'est ça qui peut introduire cet espace dont je parle, cet espace-temps, quelque sorte, on va peut-être en parler, si vous voulez, dans l'après-midi, qui fait que la vie n'est pas qu'un voyage sur Terre. Il y a quelque chose d'autre. En attendant autre chose ou pas. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Et cet espace-temps, ça a été notamment très bien, me semble-t-il, conceptualisé par Lacan, qui appelle ça la substance jouissante. Substance, ce qui se tient dessous, supposé, jouissante, et qui l'oppose à la substance étendue et la substance pensante, qu'on connaît bien. La substance étendue et la substance pensante, on connaît bien ça. Quand on parle à la télé ou ailleurs de troisième, quatrième, cinquième, pourquoi pas septième, huitième dimension, je ne pense pas qu'on parle des dimensions de ce qui fait trois dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment la question tout à fait radicale, qui est celle qui est en jeu dans cet enjeu qui est lié au fait que nous soyons des êtres parents. Je vais m'arrêter là. D'une peinture qui peut représenter quelque chose. Il peut y avoir effectivement cette dimension de l'énigme pour quelqu'un, pour quelqu'un qui la regarde. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Ou est-ce que vous, quand vous étiez travaillé par quelque chose, parce que c'est ça la question du travail, c'est quelque chose qui renvoie à cette dimension de la jouissance dont j'ai parlé tout à l'heure, la jouissance du corps. Hein. Lorsqu'on est travaillé, vous venez bien d'expliquer, et que donc vous arrivez à, par un geste particulier, à mettre sur une toile quelque chose, est-ce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose, vous, que vous percevez, qui, de toute façon, je ne sais pas comment dire, parce que si je mets un verbe, je vais faire une explication, quelque chose, je ne sais pas, qui vous emmène, qui vous arrête, qu'est-ce que vous pourriez dire? Dans ce moment particulier, le moment où on touche la toile. Dialogue, mais c'est pas comme ça, mais on peut le dire comme ça, entre, et Augustin va reprendre ça, et Lacan le reprend dans ce séminaire, et je voudrais un petit peu dire un mot par rapport à ce séminaire.
entre ce qui est en latin outil, c'est-à-dire ce dont on peut user, c'est pas utile, mais en cas c'est pas tout à fait, ce dont on peut user, et puis le fruit, c'est-à-dire ce dont on peut jouir. Donc il y a eu, c'est apparu, et ça apparaît dans les stoïciens, autour de deux mots, le signant et le signatum. Donc entre le signant, qu'on ne peut pas définir ce que c'est que le signant, puisque c'est un participe présent, c'est un acte, dès qu'il apparaît, on ne sait plus ce que c'est, le signatum, par contre, on peut le définir. Donc on serait pris, en tant qu'être parlant, du fait du langage, dans ce conflit depuis toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une culture? Qu'est-ce qu'on demande à quelqu'un? Je ne vais pas vous faire des théories, qu'est-ce qu'on dit? On lui dit, mais allez-y, usez, outil. Causer, parler. Et au bout d'un certain temps, ils vont se rendre compte que ce qu'ils disent, s'ils le peuvent, s'ils ne sont pas trop arrêtés par de l'angoisse ou toutes sortes de choses, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose du sens qui s'use à partir de certains moments de souvenir, à partir de certains moments de leur histoire. Il y a quelque chose qui n'est plus, qui s'est un peu apaisé, qui s'est pacifié. On n'est toujours pas dans la jouissance. On est toujours dans l'outil. Dans ce qu'il faut, il importe d'user. Hein, comme dit Lacan, mais allez-y, il faut en user jusqu'au trognon. C'est ça. La règle fondamentale, elle vise ça. Et c'est dites n'importe quoi. Évidemment, ce ne sera pas n'importe quoi. Mais allez-y pour que vous ne commenciez pas à penser, si je dis ça, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc on y va. On parle jusqu'à ce que, quand ça peut marcher, à certains moments, il peut arriver, voilà, la dimension du contingent. Hein, ça. Ce que Lacan va reprendre dans quatre formulations, c'est-à-dire le nécessaire, ce qui ne cesse pas de s'écrire, ce qui ne cesse pas de se dire, et je parle, et je raconte qu'à 2 ans j'ai vu ça, à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, puis on m'a dit ça, puis mon papa, puis maman, alors on va mettre du papa à maman. C'est pour ça que c'est très dangereux les gens qui interprètent là-dessus, parce qu'ils fichent tout. Donc la psychanalyse n'interprète pas du tout là-dessus. Il laisse les choses se dire pour que le sujet de l'inconscient de celui qui parle soit l'interprète. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Bon. Donc, ça parle, comme ça parle, etc. Et il peut arriver, c'est ça, Lacan a trouvé ça chez Freud, il n'insiste pas dans le dit, mais dans le dire, Freud en parle au niveau du rêve, dans la science des rêves, au niveau de ce qu'on appelle le refoulé originaire, l'Overdrive, et puis il en parle surtout dans un texte de 1922 qui est complètement passé à la trappe. Qui est justement sur les limites de l'interprétation. Et ce texte, je vais vous dire, on a commencé à le trouver en 52, c'est quand même pas rien. La censure, ça marchait comme par hasard. Et ceux qui disaient que c'était pas publié, c'est parce que dans une note sur le rêve, ce texte, c'est la première note de 3 notes, et la 3e note, c'est le rêve et la télépathie. Et John s'est dit, oh, bah, si c'est pas paru, c'est parce qu'on voulait surtout pas parler de Freud, du rapport de Freud à la télépathie. C'est pas du tout ça. Lacan reprend ça dans le séminaire de novembre 1973. Il y a un trésor là-dedans, il y a 3 mots. 2 mots allemands. Unmittelbar losgehen. C'est-à-dire un plus de jouir immédiat. Voilà la question. Donc c'est la question que je posais tout à l'heure. Je vous posais, mais je ne sais pas. Moi, c'est ce que je pense qui m'est arrivé un jour comme ça, sans que je m'y attende. Donc c'est unmittelbar immédiat. C'est-à-dire. Lusgedin, c'est-à-dire le plus de jouir, ce qu'on va appeler le plus de jouir, c'est cette dimension de la jouissance. C'est pas la jouissance, hein. C'est pas le genus en allemand, c'est le Lusgedin. Ce plus de jouir, un mittelbar, immédiat. Qu'est-ce qui fait que ce plus de jouir peut tout d'un coup,
à l'instant même,
on est réduit à ça. On tombe pas du tout, c'est pas tomber amoureux, ça n'a rien à voir. On tombe pas du tout. On est, alors là je vais prendre mon expérience, comme quand on chante le chant lyrique. Et qu'on monte, pas du tout, la voix ne monte pas du tout, on est toujours à l'horizontale. C'est la technique que j'utilise dans le chant lyrique, on ne chante jamais en montant, jamais en descendant, on chante toujours à l'horizontale. C'est-à-dire que la voix dirige la voix. Je ne sais plus ce que c'est que la voix, justement. Ce qu'on appelle la voix. Il y a quelque chose dans le corps qui dirige ce que l'on produit et qui fait qu'on crée du corps. Et ce du corps, il sort à l'horizontale. Si vous pouvez chanter 3-4 heures, vous n'allez pas vous épuiser. Si vous restez dans ce tuyau, dans ce canal, dans ce canal-là, eh bien, vous n'allez pas faire de nodules. Vous restez dans les possibilités qui sont les vôtres. Bien sûr, soit pour le trouver, il faut le travailler, tout ça, c'est toute la question des harmoniques qu'il faut arriver pour que la boîte. Et quand vous chantez comme ça, eh bien, votre voix, elle n'est pas du tout claire pour vous qui chantez. Elle est très, très sombre. Par contre, elle va être riche pour celui qui l'entend. C'est-à-dire que la castration, elle est là. Quand je chante et que j'y arrive à ce niveau-là, je ne peux pas à la fois entendre ce que je chante, la plénitude, le lus divi de ce que je chante, et le produire en moi. C'est une presse. J'ai vraiment l'impression que ce qui est là, dans cet espace devant moi, je pense à Céline Bidache, vous connaissez ce chef d'orchestre extraordinaire qui dit que quand il dirige, ça se passe là, c'est là. Il y a un espace comme ça, juste devant nous, dans notre rapport. Il y a un espace. Alors c'est ça, peut-être que je voudrais aussi vous donner votre avis. L'espace entre vous et ce que vous faites, là, où se déploie le geste. Là, il y a un espace là qui est insaisissable.
Oh!